The crane is a bird that refuses to adapt at any cost. What do you think of this? What does comfort mean to you? Is it a form of rightness? How do you get by otherwise?
Alors, bonsoir à toutes et à tous. Les intentions du volcan est une proposition idoine, la première émission d'une série à venir sur du. Chacune sera en écho d'un projet idoine et arborera un format spécifique. Et tout comme la parution du magazine, le rythme sera en fonction des désirs et possibilités.
Idoine est un outil ad hoc dont la forme principale est celle d'un magazine d'entretien à périodique éponyme. Nous nous intéressons aux économies et écosophies, aux manières de vivre et de faire. Nous enquêtons sur les pensées de l'émancipation qui émergent des pratiques. Idoine regroupe Jérémy Glatre, Pascal Rioux, Coralie Guillaubet, Éléonore Panos-Avaroni et des complices ponctuels depuis 2015. Aujourd'hui, Fabien Renetto à la technique, Émile Ripert et Emma Anselmetti-Lafont en cuisine notamment.
Cette première émission est aussi le dernier lancement de Idoine et Julia Burtin-Zortea, Julia qui est ici avec nous. Bonsoir Julia. Nous sommes en direct et en public depuis le lieu d'art et de recherche Les Limbes à Saint-Étienne. On remercie Du et Les Limbes pour la double invitation. Et nous sommes très heureuses de prolonger ici la discussion initiée dans ce numéro du magazine avec Julia. Julia est traductrice, éditrice, autrice et chercheuse indépendante. Elle a notamment participé à cofonder plusieurs revues de critique sociale, dont Panthère Première.
La rencontre de ce soir est placée sous le signe du volcan, en écho aux images présentes dans ce numéro, réalisées par des artistes qui ont accompagné Julia, Pauline Barzilay, Amélie Laval, Diane Etienne, Marion Jdanoff, Jeanne Carminati et Elsa Abderrahmani.
En géologie, le volcan est un orifice naturel par lequel un réservoir de magma à haute température d'origine profonde communique avec la surface de la Terre et s'y répand. C'est un relief montagneux de forme conique, formé par l'accumulation des produits rejetés, montés par la cheminée dans le cratère au cours d'éruption. Au figuré, c'est une situation explosive, une situation qui, calme en apparence, peut devenir soudainement dangereuse. C'est ce qui est vif, ardent, bouillonnant.
La définition géologique n'est pas antinomique avec la métaphore. L'existence de la géologie ne détruit pas la magie et la fascination du volcan, pas plus que les instruments de plus en plus précis qui permettent d'en prévoir les éruptions. Et ce soir, c'est bien l'image du volcan qui sera la figure tutélaire de cette conversation. Et pour commencer, on va écouter Marie-Claude et Laurent discuter de volcans.
Bah, ils sont éteints, hein. Ils s'éteignent tous à un moment.
Ouais. Mais oui, donc ça peut pas te faire le même effet que devant un volcan en activité.
Non, c'est sûr.
Mais peut-être que ça te fait quelque chose quand même. Et là, je me dis qu'il y aura un coucou derrière et qu'on se dira que devant un volcan, il n'y a pas de coucou, par exemple. Je sais pas ce que t'en penses.
Non, je comprends pas ce que tu dis.
Ben moi, j'ai vu des volcans en activité. Ouais. Avec toi, d'ailleurs. Enfin, l'Etna.
L'Etna.
Et puis, le Stromboli, de loin. Volcano. Et ouais, Volcano. Avec des fumerolles. Alors, donc, c'était pas en activité. On peut pas dire que c'est en activité, mais c'est des fumerolles. Et je suis montée vers le cratère. Et c'est très curieux, moi. Je dirais que il y a une façon de penser au volcan, à ce que ça peut. C'est tellement soudain aussi, leur manifestation. Donc il y a quelque chose d'imprévisible qui fait peur. On peut appréhender ça quand on est dans une ville comme Naples et qu'on sait que s'il y avait une autre éruption volcanique, ça pourrait être vraiment catastrophique. Quand on y est, je trouve qu'on ne peut qu'y penser. Et que ça serait une destruction total. Donc, il y a ce sentiment-là quand on est dans un endroit où il y a le risque. et à y penser, sans y être, je dirais, et ben moi, j'ai le sentiment d'une absorption, si je pense à au volcan, comme si je pouvais être absorbée et envoyée dans les profondeurs, dans les abysses, ben vraiment au plus profond de la Terre. Ça me fait, voilà, comme visuellement, enfin, si je peux dire.
C'est pas con, hein, ça vient du plus profond de la Terre.
Non, mais moi, je sois absorbée.
Ah, absorbée.
Oui, ah, oui, absorbée. Et j'ai l'impression que quelque chose d'originel en même temps. Je vais retourner là où d'où je viens. Enfin, c'est curieux de penser comme ça, mais... Et regarde, si tu as vu un volcan quand même en activité, c'est aux îles Canaries, ils faisaient cuire des pommes de terre.
Ah oui, non, mais...
Ah ben... Ils font cuire des pommes de terre. Il y a une sorte de grill. Ils posent des pommes de terre dessus. Il y a les vapeurs chaudes. Là, alors, il n'y a pas, ça gicle pas. Mais c'est juste dessous, en permanence. Incroyable. Hein,
les points chauds, comme aux îles Canaries, sont des remontées de magma issues du noyau terrestre. Ils traversent par intermittence les plaques océaniques, en mouvement permanent au-dessus d'eux. Ces montées de magma, appelées des panaches, forment des volcans en chaîne. Il y a des points chauds partout sur la planète.
En ce moment, Julia, tu écris pour les éditions 369 au sujet de La Buse, collectif indépendant composé de travailleuses de l'art et d'alliés, qui interroge le milieu de l'art en tant que milieu de travail. L'activité de La Buse s'inscrit dans le champ de l'art, mais sa lutte contre les pratiques abusives est commune à de nombreux secteurs. On a pu s'en rendre compte en avril dernier, lors de notre table ronde « Travail gratuit, frontières floues », par les résonances des interventions de La Buse avec celles des stagiaires grévistes des CUT, Comité unitaire sur le travail étudiant au Québec, et de Maud Simonet, sociologue du travail invisible et non reconnu. Après tes recherches, comment entrevois-tu les liens entre les différents champs dans le rapport à la lutte contre l'oppression et pour l'égalité? Quelles pistes cela amène pour une redéfinition du travail et donc de l'organisation sociale?
Moi, je vais répondre modestement, bien sûr, et surtout à partir de mes pratiques qui ont rencontré les pratiques de La Buse. Et je ne sais pas si je répondrai du coup à toute cette question qui est très vaste. Hein. Peut-être avant d'arriver justement sur La Buse et le travail de l'art, enfin, ou le travail en tout cas dans les mondes de l'art, qui ne sont pas ceux dans lesquels moi j'évolue quotidiennement, même si c'est proche, enfin, la preuve en est ce soir. En fait, moi, je travaille le texte de multiples manières. Et c'est d'abord un rapport que je pense que j'ai développé de manière absolument pas payée, comme beaucoup de pratiques, et que j'ai mis beaucoup de temps à professionnaliser, et dont la professionnalisation n'a pas du tout été évidente et ne l'est toujours pas. Et je trouve que c'est en tout cas une question, enfin en tout cas moi c'est une question que je me pose dans ma pratique aujourd'hui très fort, qui a été justement de passer de groupes plutôt militants, donc par exemple faire des revues critiques sociales indépendantes où la question de se payer, ça n'a jamais été une question première. Voire c'était plutôt une question pas abordée à dessein, ou une question critiquée, enfin, en tout cas c'était plutôt compliqué de se faire payer pour quelque chose qu'on aimait, jusqu'au moment où bon, ben, il faut gagner de l'argent, enfin, en tout cas à moins d'être rentier, héritière, la question de l'argent se pose quand même tout le temps, et on en reparlera après, etc. Mais, j'ai été très étonnée, parce qu'en plus c'était pas les études que j'avais fait au début, de me rendre compte que je pouvais monnayer cette pratique sur un marché, donc évidemment je me suis pas dit ça comme ça en arrivant dans le marché du travail, mais en tout cas disons petit à petit, par une logique qui est, je pense, une logique que tout le monde partage quand on est dans ce type de pratique, quand on tient dans la durée qu'on le fait, ben, mine de rien on construit des réseaux, on construit des contacts, etc. Et puis ça peut plus ou moins fonctionner, et quand on se dit fonctionner, c'est d'un coup, bam, le Graal, on peut se faire payer pour ce qu'on fait. Et voilà, et donc moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. Au début, tout était très bénévole, bénévole de manière consentie, parce que ça, c'est aussi un distinguo sur lequel je reviendrai après. Et puis, j'ai fait mon entrée dans le milieu, on va dire, de l'édition professionnelle, en tout cas de maison d'édition, qui avait tout à fait les moyens de payer les gens. Moi, je suis traductrice littéraire par ailleurs. Et disons que la question de monnayer mon travail, ça avait jamais été... Enfin, en tout cas, je ne suis pas arrivée dans le travail avec cette question. Et comme beaucoup de gens, je ne suis pas arrivée, et beaucoup de gens et beaucoup de femmes, je pense aussi, avec la question de la négociation de la valeur de son travail, et même une absence, je pense, quasi totale de conscience que je faisais partie d'une force de travail. Enfin, vraiment, donc d'une force de travail qui potentiellement pouvait être engagée dans un rapport de travail, et voire un rapport de force avec l'employeur. Et en fait... En tout cas, moi, de mon point de vue, du point de vue du texte et de l'édition, Et j'imagine que c'est un peu ce qui se passe dans le milieu de l'art, ou dans les milieux de l'art, c'est qu'il est très très difficile de s'imaginer que les personnes avec qui on travaille sont des patrons, sont des employeurs, et qu'on peut revendiquer des choses face à ça. D'où le fait que bah, en fait, donc les choses ne sont pas négociées. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, ont très peu été négociées. Et je parle pour moi, mais là, je parle de, je pense, beaucoup de gens autour de moi qui arrivent dans le milieu de l'édition avec des tarifs qui sont proposés par l'employeur, jamais négociés, jamais négociables, en tout cas, pas proposés comme tels, pas de devis. Enfin, cette pratique du devis qui semble un truc extrêmement vulgaire, enfin, en tout cas, qu'on a du mal à imaginer. Parce que, en fait, faire un devis, c'est proposer, mine de rien, un travail qui a une valeur et ça se discute, etc. C'est objectiver le travail, etc. Donc bref, donc après plusieurs années, comme ça, à mine de rien se faire payer clopin-clopin, enfin, c'est-à-dire un peu, pas bien, des fois bien, des fois mal, etc. Et surtout à se rendre compte que c'était énormément de travail, à continuer par ailleurs des revues et un travail... qui engageait peu d'argent, et ça, c'était volontaire, etc. Donc, en fait, ça voulait dire marier les deux. Bah, moi, je suis arrivée à une situation que je trouvais totalement intenable, c'est-à-dire pas de chômage, enfin un statut de droit d'auteur qui est un statut hyper dégueulasse, qui est un statut qui est quand même très compliqué, puisque c'est un statut qui s'apparente à un statut d'indépendant ou d'indépendante, dans lequel on a très peu de droits qui sont associés, et en particulier, pas de droit au chômage, donc pas la possibilité de s'arrêter. Et je pense que j'ai mis vraiment des années à me rendre compte qu'est-ce que ça faisait à la vie d'une personne d'être soumis à ce rythme hyper intense, en fait, où tu ne t'arrêtes jamais de travailler. Tu travailles le week-end, tu travailles en vacances, tu pars en vacances avec ton ordi, tu ne sais pas comment négocier en face avec un employeur qui n'est pas vraiment un employeur, puisque c'est un collaborateur ou une collaboratrice, donc en fait, tu ne sais pas trop comment l'appeler, donc c'est très compliqué de négocier une deadline, de dire que tu es crevé. D'ailleurs, quand est-ce que tu es crevé? Tu es tout le temps crevé, donc en fait, quand est-ce que tu dis que là, ça ne va plus? Enfin, c'est... Et je pense que cette accumulation de choses ont fait que moi, je me suis, voilà, je pense, politisée à l'endroit du travail, alors même que c'était très difficile de dire « je suis travailleuse de tel endroit », vu que j'étais plutôt une militante de cet endroit-là. Et je schématise un peu parce que, bien sûr, ça, c'est des rencontres, c'est tout ça et tout ça. Et moi, c'est passé par la syndicalisation. Enfin, vraiment, je me suis syndiquée à un moment donné, il y a 2 ans. Et c'est marrant parce que je pense que c'est des rencontres, mais aussi des choses de la vie. Et je vous le raconte à titre d'anecdote, mais je trouve que c'est une anecdote qui, moi, m'a fait vraiment, je pense, atterrir dans le monde du travail. C'est que je me suis cassé le bras, ce qui est un événement extrêmement banal de la vie, lors d'un accident de vélo. Et sauf que ça a été presque 10 mois de bataille avec l'assurance maladie pour arriver à faire valoir l'argent qu'on me devait, pour laquelle j'avais cotisé. J'étais très contente d'être syndiquée à ce moment-là. Et au final, j'avais touché 500 balles pour 1 mois et demi d'arrêt. Quand tu travailles le texte et que tu ne peux pas te servir d'un bras, en vrai, c'est assez compliqué de te servir d'un ordi. Et là, je m'étais quand même dit, bon, ben, y a un énorme souci. Et en fait, tu en discutes autour de toi, tu te rends compte que c'est la même chose pour tout le monde. Et je pense que c'est sur ces entrefaits que j'ai rencontré La Buse, ou en tout cas cette maison d'édition qui m'a proposé. C'est un travail de commande, mais on le fait ensemble avec La Buse. Et ça résonnait très très fort, puisque le projet de La Buse, c'est de réformer le statut de droit d'auteur pour en faire un projet d'intermittence. Dans ce schéma-là, en fait, c'est pour ça qu'on a décidé d'inviter Maud Simonet le 29 avril, lors d'un événement qu'on a organisé ensemble à Grenoble. Maud Simonet, c'est une sociologue qui travaille sur le travail gratuit. Et en fait, c'est une personne, je ne vais pas raconter toute sa pensée qui est complexe, mais en tout cas qui dit quelque chose d'important, qui essaye de regarder quelles tâches, quelles activités on réalise sans être payé. Mais elle dit bien un truc très important, c'est que le travail gratuit, ce n'est pas juste ne pas être payé pour quelque chose. Le travail gratuit, tel qu'elle le regarde, c'est quand on n'est pas payé pour une tâche au nom d'une autre valeur, et souvent d'une valeur que d'autres que soi agitent ou mettent en avant. Et elle, l'endroit sur lequel elle travaille beaucoup, c'est le travail domestique. Elle s'interroge sur pourquoi le travail domestique n'est jamais rémunéré, en tout cas pourquoi il est réalisé de manière aussi massive par toujours les mêmes personnes, au nom de quoi. Et elle identifie des choses qu'on peut très facilement identifier, au nom de l'amour, au nom de la famille, au nom de l'obligation, au nom de plein de choses, mais en fait c'est jamais par plaisir. Et à partir de là, elle regarde d'autres activités qu'on réalise à peu près de la même manière et qu'on peut politiser de la sorte, qui s'applique en tout cas très très bien au travail du texte, au travail de création en général, au travail de l'art, etc., qui sont où le travail gratuit prévaut énormément. Il y a les tâches mal rémunérées en droit d'auteur, mais il y a aussi tout le reste, tous les à côté qui sont bien sûr pas payés, et je pense les expositions pas payées, tout le travail de préparation et de création qui n'est pas payé, puisque dans le droit d'auteur, ce qu'on paye, c'est l'œuvre. Donc c'est aussi une conception du travail où c'est l'auteur ou l'autrice de l'œuvre dépend de l'œuvre pour être payé et pas du travail en amont. C'est quand même très particulier comme travail, donc ça repose quand même sur un déni de travail, le métier d'artiste ou de créateur ou de créatrice, et au nom de quoi en fait. Et c'est là où la pensée de Maud Simonet, elle est très utile, et c'est que c'est au nom de quoi ? De la passion, de la vocation. Le travail de l'art, notamment le travail de création, a depuis très longtemps été pensé en opposition justement au travail. Et donc, moi, mon boulot avec la Buse, notamment, mais qui sert complètement d'autres champs, comme le travail de l'édition, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, en fait, le travail de l'art ou le travail de création a été pensé complètement en opposition avec le travail, et ce, par des penseurs qui ont vraiment marqué, pour le coup. Et là, je peux citer notamment Émilie Moutsis, qui fait partie de la Buse, qui répondait à un journaliste du Monde et qui disait... En fait, on m'a très très souvent opposé cette phrase « Pourquoi paye-t-on l'air ? On ne paye pas l'air, on ne paye pas les volcans, pourquoi paierait-on un artiste ?» Et quand je parle des penseurs, qui, en tout cas des théories qui ont participé à fabriquer le fait que l'art n'est pas un travail, il y a eu cette opposition très marquée au XIXe siècle, en tout cas, enfin je ne vais pas tout retracer, mais qui faisait de l'artiste... une personne, en tout cas, ou une entité qui s'opposait au monde productif. Et ça, c'est notamment une pensée qui a été beaucoup reprise par Karl Marx et qu'on retrouve beaucoup entre ce truc de travail aliéné, travail libre, et l'artiste, le travail de création, ce serait une utopie, en tout cas, une sortie du capital. Alors que toute l'histoire qui a suivi a montré combien les mondes étaient poreux, voire les mondes se superposent, et on sait combien, et il suffit juste de regarder les chiffres de la culture... Enfin, du monde de la culture qui est en plein essor pour se rendre compte que, évidemment, le monde productif et le monde du capital est, tout le monde le sait, complètement lié au monde de l'art ou au monde de la création. Et que dans cette chaîne-là, c'est les personnes qui produisent qui finalement sont le moins payées. Là où on bute très rapidement aussi dans ces espaces-là pour réfléchir, etc., c'est que la conséquence, et ça c'est très très bien dit par un rapport dont vous connaissez peut-être l'existence, c'est le rapport de Bruno Racine qui est sorti en 2020, qui est une commande du ministère de la Culture, qui se rend compte qu'il n'y a vraiment rien qui fonctionne avec le droit d'auteur, qui commande à un haut fonctionnaire une enquête. Le rapport est plutôt décevant parce que les propositions, finalement, ne changent pas grand-chose, ne sont pas très révolutionnaires, mais en fait, le rapport a le mérite de donner des chiffres. Et notamment, il y a cette phrase très forte qui dit en fait, depuis 2001, tous les artistes et tous les gens qui sont liés au droit d'auteur, et ce n'est pas un choix, c'est comme ça qu'on est obligé de facturer, se paupérisent. En fait, il y a vraiment une baisse des revenus de tout le monde depuis 2001, alors même que le monde de la culture est en plein essor. Et c'est passif. Enfin, vraiment, le rapport est téléchargeable sur Internet, on s'en rend compte. Et puis, il donne d'autres chiffres. Et dans les chiffres, il y a notamment les chiffres des artistes plasticiens et plasticiennes qui font partie d'une des populations les plus pauvres dans le droit d'auteur. Et c'est des chiffres du style 52% des femmes artistes-auteurs plasticiennes touchent moins de 5000 euros par an de droit d'auteur. Et si on additionne avec les revenus accessoires en tout cas d'autres activités, on arrive à 10 000 euros par an de revenus, tout confondu, avec des emplois du temps qui sont des emplois du temps de dingue. Des burn-out en permanence, parce que ça aussi, on le sait, aujourd'hui, pour être dans ces mondes-là, c'est la course à la subvention, c'est la course à la résidence, c'est la compétition permanente, etc. En fait, nous sommes désinvestis. Michel Fer.
I feel very frightened to look at the fire. Secondly, I feel that I was not in the island of Ambram. I thought I was somewhere else. And the other thing, I feel that how powerful that fire is.
Du coup, nous venons d'écouter un extrait de la scène d'ouverture du film Into the Inferno de Werner Herzog. Et c'était le chef du village d'Endou sur l'île d'Ambrim dans l'océan Pacifique Sud qui racontait sa peur et l'étrangeté ressentie lors de sa rencontre avec le cratère du volcan proche de son village et la puissance du feu.
Alors on poursuit et passe à une autre dimension. En 2012, paraît en France le livre de Karen Hoffen, Les féminismes en Europe 1700-1950, une histoire politique. Spécialiste de l'histoire des femmes en Europe, elle préfère à la métaphore usitée des vagues féministes, la métaphore volcanique. Elle parle de féminisme en termes d'éruption, de coulée, de fissure de lave en fusion, car elle le considère plutôt comme une forme menaçante et insaisissable de mécontentement qui ne cesse de s'attaquer aux points faibles des couches de sédiments accumulés qui forment la cuirasse du patriarcat, le vernis institutionnel des sociétés organisées. Une forme qui réussit parfois à se frayer un chemin au travers. Julia, tu as coédité le livre « Pour l'autodéfense féministe » de Mathilde Bléza, présenté récemment au 102 à Grenoble, en dialogue avec l'association Ancrage. Cette association mène des actions de prévention primaire des violences auprès d'adultes et d'enfants. Cette soirée a mis en avant l'importance du croisement des écrits, des pensées et des actions, des expériences des corps. Pour commencer brièvement, qu'est-ce que l'autodéfense féministe ?
L'autodéfense féministe, c'est une pratique en fait qui existe. C'est toujours très difficile de dater les pratiques, mais en tout cas, l'autrice Mathilde Bléza du livre qu'on a coédité du coup avec Mathieu Brière pour les éditions de la dernière lettre, et les éditions de la dernière lettre, ça fait partie de la revue Z. C'est la revue Z est davantage connue que la maison d'édition. Donc cette autrice, elle remonte au début du XXe siècle, je crois, et elle parle de la formation de groupes, notamment en fait des suffragettes londoniennes, qui s'étaient adonnées à la pratique du jiu-jitsu pour se défendre lors de leurs manifestations de revendication du droit de vote, et où très concrètement, elles s'organisaient, elles apprenaient à se battre, etc., et surtout à se défendre en manifestation. Elles avaient carrément créé un service d'ordre. Donc ça, voilà, il y a plein de pratiques d'autodéfense féministe qui s'appelaient pas comme ça. Et là, je parle d'un truc très situé en Angleterre, mais j'imagine qu'il y en a d'autres dans le monde. Et puis ensuite, c'est une pratique qui s'est vraiment formalisée au fur et à mesure des années, des décennies, etc., avec des méthodes très différentes, beaucoup de méthodes au Canada, en Belgique aussi. Et aujourd'hui, disons que c'est organisé souvent sous la forme de stages assez courts. Et l'idée de l'autodéfense féministe, c'est de permettre à des groupes de femmes d'origines extrêmement différentes de se retrouver avec une formatrice à chaque fois, avec une personne qui est d'acquérir, déjà d'identifier les différentes formes d'agression, qu'elles soient endémiques, enfin elles sont toujours endémiques, mais en tout cas qu'elles soient physiques, telles qu'on peut les imaginer le plus évidemment, mais surtout les micro-agressions du quotidien, et trouver des techniques pour y faire face, et pour y faire face collectivement, même si on se retrouve ensuite seul dans sa vie, etc. C'est aussi savoir qu'on n'est pas seul, c'est très important psychologiquement de savoir qu'on n'est pas seul à les vivre, et que ensuite, comme le disent, il y a beaucoup de témoignages dans ce livre, une fois qu'on est seul, face à une situation de violence, on a toute une équipe derrière nous, même si elle est invisible. Et ça, ça change beaucoup de choses. Et concrètement, ben, c'est des pratiques, des techniques physiques, même si c'est des techniques physiques absolument pas telles qu'on pourrait les imaginer. C'est-à-dire, c'est pas apprendre à mettre KO quelqu'un dans la rue qui fait 6 fois son poids. Non, c'est des techniques à la portée de chaque personne, de chaque corps. Et c'est surtout, peut-être aussi, beaucoup de techniques verbal, des réactions, même des techniques de fuite. La fuite, ça peut être une technique de protection, enfin, c'en est une, évidemment, mais aussi valoriser ces techniques-là et pas dire « Ah, t'es parti, t'as rien fait, tu lui as pas crevé les yeux, etc. » Bon, bref. Et donc, globalement, c'est ça. C'est plus complexe, mais c'est à peu près ça.
Est-ce que tu peux nous parler des stratégies d'autodéfense à différents endroits et notamment dans le travail ? Peut-être que ça va rebondir sur, du coup, la première question. Et en particulier dans le champ du travail du texte et de l'édition.
Ben, justement, pour faire le lien avec la première question, parce que j'avais fait une sorte d'état des lieux assez catastrophique de nos métiers et de l'argent qu'on gagne ou surtout qu'on ne gagne pas. Typiquement, ben, déjà, le travail de la buse, par exemple, c'est un travail d'autodéfense dans un monde du travail dérégulé et qui passe peu par le syndicat. Enfin, c'est assez intéressant aussi de voir que les formes de mobilisation changent évidemment en fonction de l'évolution des métiers. Et donc déjà, se retrouver, se réunir, partager, ça, c'est toujours une stratégie d'autodéfense, même si on ne l'appelle pas comme ça, en tout cas, qui paye. Et ce que je me disais tout à l'heure, c'est que dans l'intérêt de créer un statut, de changer le statut de droit d'auteur, dans l'idée, et ça c'est la proposition de la buse, mais il pourrait y en avoir d'autres, c'est de trouver une sorte d'intermittence, de trouver une solution pour fabriquer une intermittence du livre, de l'édition et du métier de l'art. En fait, ça rend les personnes, déjà ça désindividualise le rapport à l'employeur ou à l'employeuse. On pourrait espérer que ça s'accompagne de davantage de contractualisation ou de formalisation du travail, qui peuvent permettre à la personne de se raconter. Et ça, je pense que c'est fondamental que dès lors qu'on travaille dans le monde dans lequel on est et qu'il y a de l'argent qui est en jeu, un rapport de force, on est dans un rapport de force. Et déjà, je trouve faire l'opération mentale, que ça passe par l'acquisition d'un statut qui permet d'avoir des droits plus intéressants. Et si tu as un statut collectivement gagné, ben tu es collectivement engagé dans la défense de ton statut et donc dans le soutien, en fait, quand tu dénonces quelque chose. Donc déjà, s'organiser davantage et rentrer dans ce rapport de force-là, ça ne veut pas dire le jouer systématiquement, mais en tout cas savoir que si quelque chose n'est pas respecté, en tout cas, il y a des recours, il y a des formes qui s'en accompagnent, il y a des médiations qui s'en accompagnent. Ça, ça me semble être une forme d'autodéfense, en tout cas dans les métiers de la création, qui sont nécessaires et très peu engagées. Là, les réformes en cours ne vont pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que, par exemple, suite à ce rapport ministériel, toutes les préconisations, c'était... globalement, il faut davantage payer les gens, ce qui est très bien. Payer les gens quand ils travaillent, payer les gens quand il y a une exposition, payer les gens à la tâche, etc. Il y a des barèmes, on veut tu en voilà, qui sont organisés de part et d'autre, le barème Astre, par exemple. Mais ce que dit Labuse, et ce que je pense aussi très fort, c'est que ça ne changera rien, en fait, dans la pratique. Déjà parce que c'est très peu appliqué par les institutions. C'est bien plus appliqué d'ailleurs dans les petites institutions culturelles que dans les grosses. Enfin, ça, la pratique et toutes les enquêtes le montrent. Donc ça veut dire que les rapports de pouvoir sont compliqués et dans tout cas, ça ne changera rien à la mise en concurrence des gens. Donc tant qu'il n'y a pas un statut commun égalitaire qui garantit un salaire au travail, il sera très compliqué de changer les choses. Donc bon, ça, c'est un élément de la réponse. Et après, en ce qui me concerne davantage, justement sur le modèle de Labuse ou de d'autres, parce que je dis Labuse, mais il y en a d'autres de collectifs qui font ce travail-là, il y a l'idée avec d'autres personnes avec qui je travaille, parce que moi je fais beaucoup de co-traduction, je travaille beaucoup en équipe, y compris dans les métiers, pour des boulots payés, de faire ce truc qui paye tout le temps aussi, c'est-à-dire épingler les pratiques. Et en fait, c'est un peu terrible d'en arriver là, mais épingler les employeurs qui font n'importe quoi, les pratiques abusives, trouver une manière de se donner des tuyaux aussi. Et ça, c'est quelque chose que moi, je fais depuis très peu de temps. Mais par exemple, on me propose quelque chose. Je trouve que c'est pas énorme d'appeler d'autres personnes de mon milieu pour savoir qu'est-ce qu'ils ou elles en pensent et déjà confronter... surtout ne pas être seul, parce qu'on est hyper seul dans ces métiers et avec cette pensée d'être hyper privilégié quand il nous arrive un truc et qu'on peut être payé enfin. Donc cette pensée du winner ou de la winneuse, elle est hyper forte, même si on a l'impression d'avoir des soubassements militants qui sont solides. Et donc ce truc de l'autodéfense, c'est aussi, je pense, clairement instaurer des questions de classe en fait dans ces rapports-là. Parce que ce que racontait le rapport Racine, mais ça c'est des choses qu'on sait toutes et tous, si on regarde un peu le monde social avec un œil critique, c'est que quand on est aussi mal payé et qu'il faut autant travailler pour être un peu payé et que les choses ne vont pas s'améliorer avec l'âge qui passe, on se fait éjecter en fait, on s'auto-éjecte il y a un moment donné. Et qui s'auto-éjecte ? Bien sûr, c'est les personnes les plus fragiles sur le plan économique, c'est les personnes qui n'ont pas de capital, pas de patrimoine, pas de famille, les femmes à charge de famille, enfin à charge d'enfants. Et c'est assez fou de lire dans un rapport ministériel un truc aussi énorme qu'il n'y a que les mieux lotis qui s'en sortent. Il y a un effet de système qui est terrible. En fait, les mondes de l'art encouragent la reproduction sociale. Et finalement, passer 40 ans, globalement, à moins d'accepter une précarité ou d'avoir la capacité psychologique de l'accepter, parce qu'en fait, tout le monde n'est pas doté pareil à cet endroit-là. Donc, c'est aussi le travail de Labuse et ce travail critique à faire vraiment collectivement, c'est introduire des questions de classe aussi pour que la création ne soit pas réservée qu'à une élite. Et c'est aussi ce qui fait que ce sont des milieux dans lesquels il y a très peu de lutte collective, parce que quand tout va bien pour soi, on ne s'engage pas. En tout cas, on n'a aucune raison de transformer les choses de manière structurelle ou systémique si de toute façon, on sait que c'est un peu la galère, mais on va toujours s'en sortir. Voilà. Merci.
Alors d'ailleurs, moi, la question que je me pose, c'est comment se fait-il qu'on soit si nombreux souvent à être dans ces endroits-là ? Alors que c'est si dangereux.
Effectivement. Pour paraphraser Marie-Claude, on ne construit pas une maison sur le cratère d'un volcan. Et ton enquête du moment porte sur l'argent, Ce sera le dossier thématique du prochain numéro de Panthère Première que tu coordonnes et qui paraîtra en septembre. Comment comprends-tu cette notion outil, problème, institution sociale qu'est l'argent ? Et comment as-tu procédé pour saisir les pratiques de l'argent développées par les institutions, les intentions, les morales qui sous-tendent ces usages ?
En fait, dans la revue Panthère Première, c'est donc une revue de critique sociale qu'on fabrique en collectif. On est 15 personnes en non-mixité sans mexis. Et en fait, les questions matérialistes nous intéressent depuis le début, beaucoup. Par exemple, le deuxième numéro de la revue, et je le dis parce que le numéro qu'on est en train de fabriquer, c'est quand même en lien avec ce deuxième numéro, on l'a fait sur l'héritage. Et en fait, parce qu'on s'était quand même dit, bon, bah, on est dans des milieux... On évolue dans des milieux dans lesquels on parle de beaucoup de choses, on critique beaucoup de choses, on exerce une pensée sur énormément d'objets. Mais alors s'il y a bien un endroit sur lequel on n'arrive pas à aller, c'est la question de l'argent et a fortiori la question de l'héritage. Enfin vraiment ce qu'on va recevoir, etc. Et c'est pas la même chose de dire qu'on est précaire quand on sait qu'on va recevoir un héritage que quand on est précaire quand on recevra jamais rien. Et bref, et du coup, on s'était dit, bon, bah, emparons-nous de cette question, allons poser déjà posons-nous nous-mêmes des questions, et puis allons voir à droite à gauche comment on peut s'emparer de, en tout cas y réfléchir collectivement, etc. Et on avait adoré faire ce numéro, vraiment qui avait eu, selon nous, donc à notre petite échelle, pas mal de retentissement et entraîné pas mal de curiosité. Et on trouvait que ça décalait, en tout cas ça entraînait énormément de discussions qu'on avait peu l'habitude de voir aussi, parce que ça déculpabilisait pas mal de monde, que c'est ce gros sujet arrive via une revue et que ce soit pas à soi aussi de l'amener, parce que c'est hyper compliqué et très culpabilisant aussi quand on a de l'héritage de pouvoir en parler. Et bref, et dans la foulée de ce numéro, entre temps on en a fait d'autres, etc. Et là, ben, le numéro actuel qui sort en septembre, on le fait sur l'argent. On s'est dit, bon, on a fait sur l'héritage qui a une forme d'accumulation d'argent particulière, peut-être qu'on pourrait revenir carrément en arrière et parler du truc voilà, qui nous relie toutes et tous, en tout cas, et pour lesquels on a toutes et tous des rapports super bizarres et dont on parle très peu, et qui est le fric. Et donc pour ça, bah, en fait, c'est un sujet tellement large qu'il fallait quand même trouver une entrée. Donc sachant que les dossiers de Panthère Première, c'est 8 articles max, c'est pas hyper exhaustif, mais ça veut dire qu'il faut quand même trouver des biais à chaque fois un peu précis pour pas s'égarer, etc. Et puis surtout pour proposer quelque chose. Même si nous, on n'a rien à... Je sais pas comment dire, on n'est pas une revue qui... On n'a pas d'injonction, voilà. Proposer quelque chose, c'est dans la réflexion. En tout cas, amener différentes pierres pour que ça construise quelque chose. Et en fait, là, on s'est dit, bon, bah, sur l'argent, par quel bout on pourrait le prendre ? C'est tellement large. Et donc, bah, dans ces cas-là, quand on ne sait pas trop, évidemment, on lit, on sait de différentes pensées théoriques, etc. Et il y a une sociologue américaine qui s'appelle Viviana Zelizer, qui est sociologue de l'économie et qui a fait tous ses travaux sur les questions de budget, et avec un angle très intéressant, assez féministe aussi, qui s'intéresse vraiment à l'argent des ménages et surtout à la manière, ce qu'elle appelle les significations sociales de l'argent. C'est-à-dire, quelle signification on met sur nos budgets. Et donc, ça peut sembler très, très micro comme analyse, mais les exemples sont vachement parlants. Par exemple, j'ai reçu de l'argent d'un héritage et cet argent-là, je ne vais pas le dilapider, je ne vais pas vivre avec et je vais vouloir en faire un truc important. Et ça va être compliqué pour moi, et ça on l'entend beaucoup, de vivre sur son héritage en se disant « bon bah c'est bien, c'est de l'argent que j'ai reçu, j'y peux rien, j'arrive comme ça, etc. » Ou alors je vais le redistribuer, ou je vais d'ailleurs en faire quelque chose. Non, c'est quelque chose qu'il faudrait transformer justement en patrimoine. En tout cas, il faudrait que la transformation soit louable. En tout cas, on y met très souvent une morale précise. Et puis par exemple, d'autres exemples plus quotidiens, si tu travailles dans un bar et que tu as l'argent du pourboire, ben, tes pourboires, qu'est-ce que tu vas en faire ? Il y a des personnes qui vont en faire tout, enfin qui vont pas indexer l'argent et le mettre sur quelque chose d'autre. Et puis il y a d'autres personnes qui vont se dire, tiens, c'est de l'argent que j'ai pas vraiment gagné, donc l'argent pas gagné, en fait je vais le mettre dans mon loisir, dans mon plaisir. Et en fait, elle travaille comme ça sur énormément d'endroits sur lesquels qui racontent nos rapports à l'argent. Bien sûr, si on s'arrête là, ça raconte pas grand-chose. Et il faut complexifier les choses. Et tout le travail de Zelizer et de plein d'autres gens, c'est d'essayer de comprendre justement quelles sont les normes dont on se rend absolument pas compte, qui viennent nous raconter ou qui infusent à travers nous et qui ressortent dans nos pratiques, qui font que ben, cet argent-là, on va le mettre là, celui-ci, on peut le partager, celui-ci, on va pas le partager, etc. Et on s'est dit, ben voilà, essayons de regarder plutôt à l'endroit des normes qui fabriquent nos rapports à l'argent et que nous, on met en jeu en permanence, sans jamais les interroger, sans jamais les savoir. Et pour ce faire, par exemple, je ne vais pas vous décrire tout le dossier, mais moi, je me suis beaucoup intéressée aux travaux d'une autre chercheuse qui s'appelle Jeanne Lazarus, qui a publié divers livres, mais dont un dernier qui s'appelle « Les politiques de l'argent ». Et elle s'intéresse au monde de la banque, ce qui peut sembler hyper hostile et dont on a assez peu envie d'entendre parler dans nos quotidiens. Mais elle montre combien, par exemple, le monde bancaire a pénétré nos pratiques de manière extrêmement fine et surtout s'est substitué à l'état social. En fait, combien les politiques économiques et les politiques sociales à l'échelle de l'État sont de plus en plus main dans la main. Là aussi, il n'y a rien d'extrêmement subversif dans ce que je dis. En fait, c'est des choses qu'on sait. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre comment ça se traduit via les banques, qui sont des vrais partenaires de l'État, mais à des endroits où on n'a pas idée, en fait. Et combien, plutôt que résoudre, je sais pas, là, par exemple, se questionner sur l'origine de la pauvreté de manière structurelle, c'est plutôt l'individu, de manière très comportementale, qu'on va charger de réduire sa pauvreté et de gérer sa pauvreté. Et ça, c'est des changements de paradigme qui ont lieu dans toute la moitié depuis longtemps, mais en tout cas qu'on peut vraiment dater. C'est toujours intéressant, je trouve, de dater ces grands phénomènes qui nous dépassent et d'arriver à voir par quel mécanisme très fin ça passe. Et il y a vraiment des dates comme ça, depuis les années 50, qui viennent raconter l'évolution des rapports entre l'État et la banque et des choses, l'obligation du compte bancaire, enfin le droit au compte bancaire, c'est pas l'obligation, mais en fait c'est devenu un droit. Par exemple, l'encouragement du crédit, l'encouragement de l'épargne à d'autres moments, le fait que les banques surveillent de plus en plus, mais tout ça, encore une fois, c'est pas une banque qui a décidé toute seule, c'est avec la Banque de France, avec l'État, ça se supplante à des politiques sociales dignes de ce nom et redistributives, et d'identifier les personnes fragiles, leur faire des formations dans les banques, donc ce qu'on appelle l'éducation bancaire, l'inclusion bancaire, et ça c'est depuis 20 ans de plus en plus que ça arrive. Et ce que je trouvais très intéressant de son enquête, c'est que jusqu'à présent on imaginait que ces politiques d'inclusion bancaire, par exemple, elles étaient dirigées à des personnes très très pauvres et précaires, surendettées, etc. Et en fait, de plus en plus, c'est des politiques qui sont proposées à la classe moyenne qui se fragilise. Donc en fait, peut-être que nous pourrions être convoqués à un point budget dans pas longtemps, parce que la banque estime que les comptes sont trop fragiles, en tout cas, et qu'il va falloir un petit peu resserrer la vis. Alors, c'est très sympathiquement proposé, et c'est des programmes d'éducation bancaire. Comment on gère mieux un budget, etc. Comment on fait en sorte qu'avec peu, on s'en sorte bien. Et ça va très de pair avec la notion de résilience, qui est aussi très à la mode en ce moment. C'est-à-dire comment on est résilient face à la pauvreté, plutôt que se questionner sur des questions macroéconomiques ou politiques, de résorption de cette pauvreté, due à des inégalités sociales énormes qu'on connaît, des capitaux qui sont à un certain endroit, et voilà. Donc le capital, le grand capital, n'est jamais re-questionné. Par contre, la pratique comportementale des personnes les plus pauvres est éduquée, dressée, etc. Et ça, il y a une histoire, c'est très documenté. Donc voilà, et là où on trouvait ça intéressant, c'est que justement, c'est des choses qui nous concernent aussi. Même si on se sent très loin de ça, en fait, toutes nos pratiques quotidiennes de gestion de l'argent, d'épargne, le PEL, alors ça nous, certaines personnes, ça peut paraître très très loin, mais d'autres beaucoup moins, mettre 50 euros de côté, etc. En fait, d'où on a ces pratiques, pourquoi on les a, comment on se protège collectivement, et vu qu'on se protège de moins en moins collectivement, déjà à l'échelle de l'État, on met de plus en plus d'épargne et d'argent de côté, tout seul, en fait, aussi, parce qu'on nous dit de faire ça. Donc ça, c'est un exemple d'endroit qu'on avait envie de creuser sur l'argent. Pas rester collé à la pratique, parce que c'est très intéressant de décrire les pratiques, mais il y a un moment donné, c'est aussi nourrir nos pratiques d'autres questions, d'autres regards, d'autres problématiques, etc. Et l'autre exemple que je voulais vous donner, que moi je trouve... Voilà, on attend l'article, on ne l'a pas encore lu, mais il va bientôt arriver. Par exemple, on va avoir un pratique sur le prix libre, qui est une pratique hyper répandue, et pour autant est très peu questionnée dès lors qu'on la met en place, voire même totalement attendu, c'est-à-dire que ça fait partie d'un... Si tu mets pas de prix libre en place, ça peut paraître étrange, voire pas militant, voire pas politisé, etc. Et là, on a deux personnes qui fabriquent un article sur le prix libre et qui sont revenues à l'origine, notamment, de la pensée sur le prix libre. Bon, c'est des manuels de théorie économique hyper libéraux qui préconise le prix libre, parce qu'un individu seul face à un prix est totalement paumé. Donc en fait, potentiellement, on peut mettre plus. Et en fait, tout ça, c'est sur des bases d'enquête, etc. Après, évidemment, tout ça, c'est repris, ça voyage, etc. Et c'est repris parfois de manière hyper chouette et de manière réfléchie avec de grosses bases politiques derrière. Mais c'est pas inintéressant de voir aussi comment des pratiques économiques qui viennent des mondes de la finance ou du libéralisme arrivent et infusent dans des pratiques militantes, des fois très bien appliquées et des fois qui produisent aussi des trucs très compliqués quand il y a du travail derrière, par exemple.
L'énigme du volcan illustrait la souffrance de la région et ses histoires cachées. L'éruption a libéré les lumières de leurs entraves. Politiquement, nous sommes dans les différentes étapes de ce phénomène. Nous ne sommes jamais endormis.
Pour rebondir sur ces mots d'Api Chatpong Veracetacool au sujet de son court-métrage Ablaze, nous allons aborder la dormance du volcan, la violence latente. Ce qui nous intéresse beaucoup et qui est toujours présent dans ta pratique est ton attention à la manière dont la parole circule, que ce soit dans ce qui est relégué à la marge, silencié socialement, dans les rapports de travail, dans ta relation à l'écriture, etc. Alors en plus de l'autodéfense féministe dont on a parlé tout à l'heure, pour conclure et ouvrir cet échange, peux-tu nous dire quelques mots des outils féministes que tu mets en place, en pratique ?
Bah, c'est toujours très difficile ce genre de questions parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on met en place mais dont je pense qu'on n'arrive pas à... qu'on arrive moins à identifier au moment où on nous en parle. Mais la première chose qui me vient, bah, forcément, c'est le collectif. Et fabriquer un collectif en non-mixité, bah, c'est pas rien. Surtout, dans certains milieux, la non-mixité semble acquise, mais en fait, ça l'est assez peu. C'est quand même quelque chose qu'il faut quand même très régulièrement justifier. En tout cas, ça donne des outils à plein d'égards. En tout cas, j'identifie ça. Et après, moi, dans mes pratiques personnelles, je ne sais pas si c'est une pratique particulièrement féministe, mais en tout cas, moi, je travaille beaucoup à partir de l'écriture, à partir de l'enquête, et sur des sujets qu'on pourrait appeler féministes, mais qu'on pourrait aussi appeler des sujets, je sais pas, qui s'intéressent à la violence. Et moi, je travaille beaucoup sur des questions de violence familiale et intrafamiliale, dans mes enquêtes, au long cours, etc., sous différents aspects, sous différents angles. Je pense que, en tout cas, parler de ces sujets, les explorer avec des enquêtes longues, bah, c'est une pratique, en tout cas, c'est forcément un engagement. Enfin, c'est des envies de changement, etc. Et après, je ne sais pas ce que... je sais pas si vous avez des questions pour m'aider, mais...
Bah, peut-être parler de ce que tu fais en ce moment comme formation, même si c'est en cours.
Oui. Moi, je fais une formation SPOMO au planning familial pour être ce qu'on appelle conseillère conjugale et familiale. C'est un métier très mal nommé parce que et c'est un nom qui, historiquement, dans l'histoire du planning, avait son sens et l'a moins aujourd'hui parce que quand on est CCF, donc conseillère conjugale et familiale, on travaille finalement assez peu avec des familles et assez peu sur la conjugalité. Et ce métier, c'est plutôt un travail sur les questions de relations affectives, sexuelles, et conjugale, bien sûr, par moment. Et oui, moi, je fais cette formation et qui, je pense, est une formation qui vient se compléter. Enfin, moi, c'est comme ça que je me l'imagine, hein, mais que je me le raconte. Mais en tout cas, qui se complète avec différentes pratiques d'analyse et de critique qui, en tout cas, moi, me suffisaient plus. C'est-à-dire que je me sentais plus très outillée, ou en tout cas j'avais envie de m'outiller différemment, parce que moi mon métier d'enquêtrice, j'allais dire je suis pas du tout une enquêtrice, mais en tout cas le fait de faire des enquêtes m'amène à rencontrer quand même pas mal de gens qui ont vécu des trucs très durs, et il y a un moment donné où je trouvais ça assez honnête de se trouver un peu limitée face aux personnes que j'interviewais et qui étaient totalement d'accord d'être interviewées, mais je pense que ça me donnait me questionner aussi sur... J'avais, je pense, envie de me situer un peu différemment que juste colporter une parole. Et je me suis posé la question de quoi faire, en tout cas comment être à une place qui me semblait peut-être plus aidante, enfin, en tout cas plus juste pour moi, enfin, peut-être, tout simplement. Et l'un des principes de cette formation, c'est vraiment de travailler la question de l'écoute active sur ces questions très compliquées, du repérage des violences, de l'accompagnement pendant, après, etc. Et moi, ça me plaît beaucoup. Voilà, en tout cas, je trouve que c'est intéressant de se déplacer de pratique et de s'envoyer des petites claques par moment et de se mettre aussi en difficulté, parce que c'est sortir de ses zones de confort pour aller explorer d'autres manières de faire, mais des fois vraiment radicalement opposées à ce qu'on sait faire. C'est intéressant, parce que ça montre que... Et ça enrichit surtout l'autre pratique, enfin, la pratique de laquelle on s'éloigne. Et, même si moi, j'ai pas du tout envie de m'éloigner de l'écriture, mais en tout cas, je me rends compte que là, ce que je suis en train d'apprendre à faire vient forcément nourrir la pratique de l'enquête et la manière, par exemple, de mener un entretien. Voilà.
La lave coule, la lave claque sur un brime. En tournoyant autour de l'île, elle engendre un nouveau pays. En tournoyant, c'est le volcan qui engendre un nouveau pays. Ça coule et ça claque sur les côtes d'Embrime. C'est la traduction du chant que nous écoutons en ce moment. Il vient de l'archipel du Vanuatu, date de 1998, et est en ligne sur Pangloss, une encyclopédie sonore participative du CNRS, qui conserve des langues vivantes mais menacées.
Alors, pour ouvrir la discussion, on va accueillir des questions du public. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à venir nous rejoindre autour de la table. Et on vous passe un micro.
Bonsoir, merci. Moi, je voulais rebondir sur la question de la parole en te demandant si, selon toi, l'écriture pourrait être un... terrain, une terre particulièrement fertile pour justement porter les voix féministes de demain aussi.
Oui, je pense que oui, très très fort, mais que c'est déjà quelque chose qui se passe. En fait, il y a beaucoup d'écritures. En fait, il y a énormément d'écrits féministes en ce moment. Enfin, comme on voit, je pense que MeToo, ça a quand même, il y a eu un effet d'accélérateur fort, et que à la faveur d'ailleurs de ce qui se passe en ce moment, il y a une redécouverte assez forte d'écrits beaucoup plus anciens, tout à fait oubliés et tout à fait fondateurs. Donc oui, je pense que le texte, en tout cas le texte comme tous les espaces de parole en fait, hein, sont des espaces très importants et desquels sont emparés en tout cas.
Peut-être que c'est aussi une question qui fait appel à la manière de concevoir l'écriture et la manière dont l'écriture est un espace de travail en soi et de recherche. Je pense à la manière dont tu construis tes textes, mais aussi peut-être à des questions plus, je sais pas, même jusqu'à la typographie.
Oui, je pense que c'est... En fait, je pense que la pratique, enfin les pratiques, en tout cas féministes dans lesquelles on peut être engagé, enfin moi je peux être engagée, nourrissent forcément des méthodes, en tout cas des manières de faire, et ce, je pense, de manière même assez inconsciente. Et d'ailleurs, c'était intéressant de discuter avec Idoine, parce que je pense que vous m'aviez pointé quelque chose de ma méthode, qui maintenant me semble évident, mais moi que j'avais jamais identifié comme telle, qui est par exemple... je pense cette pratique que j'ai de... Mais après, c'est peut-être pas une pratique féministe, c'est ça qui est compliqué, mais en tout cas, qui, moi, me semble importante, c'est de souvent raconter toutes les étapes d'une enquête, c'est-à-dire d'en passer par toutes les questions qui vont se poser et de pas affirmer. En fait, moi, je m'en fiche complètement d'affirmer des choses hyper fortes, hyper sûres, etc. J'ai aucun problème avec le doute, c'est pas un endroit qui me met mal, moi, l'incertitude. Du coup, je trouve que, par contre, j'aime bien lire, en tout cas moi, des textes qui vont faire réfléchir. Enfin, ça, c'est, je pense, la base, en tout cas, de mon rapport à l'écriture et en tout cas à la théorie, parce que moi, j'aime énormément la littérature. Je pense que je lis d'ailleurs beaucoup plus de littérature que de théorie. Mais d'ailleurs, je pense que c'est exactement la même chose dans la littérature. Moi, j'aime des textes qui vont susciter des choses, des questions, sans montrer forcément, sans te dire quoi penser, quoi amener, etc. Et du coup, j'aime bien, en fait, proposer des enquêtes qui ne cachent pas les doutes qui s'accompagnent de l'enquête et qui vont pas dire, voilà... je pense qu'il faut penser ça. En fait, c'est plutôt donner les clés et donner les outils à partir de rencontres pour proposer après au lecteur ou à la lectrice de se saisir ou pas. Et en fait, moi, j'aime assez bien d'ailleurs les conflits les conflits de réflexion dans les enquêtes. Et les objets moi, sur lesquels je travaille, des fois, j'ai pas de réponse. Et c'est plutôt des, je pense, des perches tendues à des professionnels qui travaillent ces questions. Je travaille beaucoup sur la question de la responsabilité collective, sur les questions de violence. Qui peut voir ça, qui ne les voit pas, comment on fait, etc. Donc il y a peu de réponses clés en fait, à amener. Mais en tout cas, qui invisibilise, comment on peut visibiliser, est-ce que par exemple c'est le rôle d'un soignant, d'une équipe soignante de faire ça, enfin, jusqu'où on va si on fait ça, etc. Donc moi je n'ai pas toutes les clés. Je parle aussi de professions que je n'occupe pas. Mais que j'interviewe beaucoup. Et du coup, je ne sais pas si on peut faire un lien direct entre une pratique ou une méthode féministe et celle-ci, mais en tout cas, c'est quelque chose que ce... être en paix avec le doute, je trouve que c'est... Et ce qui veut dire ne pas affirmer, en tout cas ne pas passer en force sur les idées, c'est quelque chose que je trouve important et moi, dans lequel je me sens bien. Enfin...
Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions... merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Julia Burtin-Zortea. Merci à Kim Pasquier, Marie Kaya, toute l'équipe des Limbes, Fabien Reneteau et Du, bien sûr. Merci spécial à Tracy Hanna, qui chante notre générique. Et à bientôt sur les ondes, et à tout de suite pour celles et ceux qui sont là au Limbe.
Thing is a bird that refuses to adapt at any cost. What do you think of this? What does comfort mean to you? Is it a form of rightness? How do you get by otherwise?